Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Bien, nous allons parler tout à l'heure des zones humides. Qu'est-ce que c'est quoi une zone humide? Comment la protéger? Quelle est son importance? Et comment protéger une zone humide? Le professeur Mutambwe Shango, spécialiste en environnement, est notre invité. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui des zones humides. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par zone humide?
Ben, déjà, merci de m'avoir associé à votre émission. En tout cas, je me régale comme un poisson, cette fois-là, pas comme dans l'eau non polluée, mais dans une zone humide non polluée.
Ça, c'est bien.
Et encore un grand merci parce que vous me donnez l'occasion d'expliquer à mes chers frères et sœurs des choses qu'ils ont tous les jours, mais malheureusement qu'ils ne connaissent peut-être pas leur tenant et leur aboutissant. Logiquement, une zone humide, ça vient du mot anglais wet waterland, qui veut dire écotone, qui veut dire des zones situées entre le milieu terrestre bien drainé et le milieu aquatique. Autrement dit, ce sont des zones peu profondes, égorgées d'eau et renfermant des végétations adaptées au milieu aquatique. Voilà, c'est ça la définition.
La définition d'une zone
humide.
Humide.
Donc c'est comme le marais, c'est comme les tourbières, tout ça là font partie des zones humides.
Voilà, donc vous avez dit que ce sont des zones gorgées d'eau.
Oui.
Et qui peuvent
couvrir des végétations.
Des végétations.
Adaptées au milieu aquatique.
Voilà. Est-ce que vous pouvez inciter, donner des exemples des quelques zones humides que nous avons?
Nous sommes noyés. C'est un des pays les plus riches au monde en zones humides, s'il vous plaît. Nous avons même le parc, le plus grand parc du monde.
Lequel?
En zone humide.
Lequel?
Je continue.
Allez-y.
Ne me faites pas danser avant la musique. J'arrive. Donc... vous avez le parc de Salonga. C'est le plus grand parc du monde à zones humides. Mais ça, c'est un parc, un échantillon que la RDC a réservé pour les générations futures. Mais toute la forêt équatoriale, vous commencez de Bandundu jusqu'à Kisangani, s'il vous plaît, à passer par Ikela, Lomela, Ndegese, Kole, Opala, tout ça là, ça fait le Maniema. Tout ça là font partie des zones humides. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est un problème. Et ici à Kinshasa, lorsque nous parlons de la ville basse, mais c'est une zone humide.
La ville basse, c'est pour
vous êtes ici en Gombe, vous êtes à Loa, vous êtes à Rouakadingi, donc Barumbu, Kinshasa, Lingwala, ça fait partie des zones humides. Mais occupé, je ne sais pas comment. Si vous arrivez à Debonhom, c'est une zone humide. Ngaba, zone humide. Plus de la moitié d'un sel, zone humide. Donc c'est plein, nous sommes entourés de zones humides. Mais comment est-ce que nous utilisons ces zones humides?
On construit des maisons, on aménage.
Voilà.
On place des maisons d'habitation.
Voilà. Voilà. C'est ce qui est, pour moi, qui suis spécialiste, je suis malheureux.
Mais à votre avis, professeur, qu'est-ce qu'on devait faire de ces zones humides au lieu de construire des maisons?
Les choses sont simples. Je vais vous citer un exemple très malheureux. Le Rwanda n'a pas de terre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils valorisent leurs zones humides et c'est là où les Rwandais font le poisson, les bananiers et ils font les différentes cultures maraîchères. Donc on peut valoriser, les systèmes de valorisation sont énormes et ça dépend de ce qu'on veut. Je viens du lac Maindombe à Inongo. sous les, avec les, j'étais invité par une ONG ici, Senadep, pour réfléchir sur les, l'avenir du lac Maïndombe. Mmh. Mais sachant qu'il y a une Ongo, c'est, ce n'est qu'une zone humide. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle l'agro-piscicole, le système agro-piscicole. C'est-à-dire quoi? On essaie de créer des étangs peu profonds, 50 cm de profondeur. Mmh. Là, on peut mettre le poisson, on peut faire le riz, et on prépare ce qu'on appelle de billons, donc des bandes de 2, 3, 4, 5 mètres, et sur ces bandes, on fait des cultures de bananiers. Les bananes qui aiment l'eau, la zone est humide, on n'a pas besoin d'arroser. Les bananes poussent bêtement et gratuitement. On fait les cultures d'ananas. On fait les cultures
de riz.
Vous comprenez? Mais la zone garde ses caractéristiques. Vous trouvez les oiseaux, vous trouvez les insectes. Rien n'a changé. Donc, c'est qu'on pourrait dire, on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On n'a rien changé. C'est vrai qu'il y a toujours un qui est à poil. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour valoriser ces
gestes.
Regardez, mais la mauvaise utilisation, je veux vous citer, moi j'aime le bloc. Les soirs, malgré mon poids et mon âge, j'aime le bloc, à Banda.
À Bandalungwa, là où
mais, il faut associer l'utile à l'agréable, vous quittez l'antenne ici, vous passez au bloc.
Pour aller prendre votre bière tapée. Fraîche.
Et là, Dieu prend plaisir. Vous comprenez? Là où la cité Oasis, on appelait ça pépinière, c'est une zone humide, ok? Mm. Où on faisait les cultures maraîchères. Mais quand je réfléchis, je vois ce qui se passe là-bas. Imaginez-vous, l'eau qu'on utilise pour arroser ces zones humides, ou cette portion de terre-là, l'eau venant des stations, de Kobile, tout consort total. C'est cette eau-là qu'on utilise pour arroser les tomates, toutes les cultures maraîchères, n'est-ce pas? Mmh. Mais vous savez que c'est de l'eau polluée.
Il semble qu'il y a certaines stations font l'épuration, ils ont des systèmes d'épuration,
ou,
professeur.
Ou biologique, chimique, ou naturel. Non. Mais prenez l'eau là. On ne fait pas seulement polluer les cultures, mais on pollue le sol. Parce que l'eau va tomber aussi dans le sol. Toutes les huiles, toutes les graisses, les métaux lourds, tout ça là, ça entre là-bas. Et le soir, nous mangeons. Soyons sérieux. Est-ce que nous ne préparons pas nos tombes nous-mêmes? Vous comprenez? Ça, c'est l'utilisation que nous faisons de nos zones humides.
Alors, est-ce qu'il y a des zones humides qui ont été valorisées ici dans notre pays? Vous pouvez citer quelques exemples?
Non, mais c'est valorisé de manière vraiment traditionnelle. Vous allez à Massina, par exemple, les gens font le riz. Mais on pouvait faire mieux que des produits...
L'espace qu'on appelle Tchouengue.
À Tchouengue. Mm. On fait le riz, mais si on
c'est
pouvait...
C'est une zone marécageuse.
Hein. C'est une zone marécageuse. C'est une zone humide. Mais on pouvait bien améliorer ça. J'ai fait la même chose. Je vous donne... J'ai fait un travail avec... qui à l'IRAIF, quand j'étais responsable, avec un étudiant à Kinkole. Sur l'avenue Moto, il y a une grande parcelle là où on faisait le riz, mais j'ai fait produire et le riz, et les poissons, et les bananiers. Mais les résultats, le riz, on obtenait 3-4 tonnes de plus que si on utilisait le riz seul. Mais j'avais présenté le projet à la FAO, on m'a dit que ça n'entre pas dans leur programme. Le travail traîne dans les tiroirs. Il y a une ONG qui travaille avec Bralima. J'ai présenté le travail Mais ils se réfèrent à leur technique traditionnelle parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, vous voyez, comme je disais dans les émissions passées, il y a un ravin entre le scientifique et la population. Mmh. Dommage.
Donc, vous dites que ces zones peuvent être valorisées de mille et une manières.
Oui.
De plusieurs manières.
Oui.
En pratiquant l'agriculture. À part ça,
mais l'écotourisme, nous avons, vous allez chez Safari Beach. Je vous invite, d'aujourd'hui, c'est mercredi, Safari Beach en Tselé. Mais allez le soir. Laissez votre véhicule à un kilomètre de Safari Beach, faites le pied.
Qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve
là-bas. Vous allez trouver des vaches en train de bouffer gratuitement et gracieusement. C'est quoi? C'est le fruit des zones humides, source de fourrage.
Parce qu'il y a de l'eau.
Il y a de l'eau.
Les herbes poussent à tout moment.
Oui, et ça pousse à tout moment. On n'a rien à donner. Les vaches sont là, ils mangent. Et comme ils font un peu leurs déchets et tout qu'on sort, c'est d'engrais naturels. Et ces herbes poussent. Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Mais... non mais
oui.
Il y a des choses, bon, vous m'excuserez toujours de dire la même expression que j'ai toujours dit, kozanga koye bezaliwa yanda mote ezaliwa,
l'ignorance
si. c'est le comble de malheur.
Oh,
merci. Comment? Et je peux encore continuer.
Oui, allez-y,
si vous arrivez en Bombolumene, il y a ce qu'on appelle la saline, abusement appelée saline. Mais il y a 10 ans, au niveau de cette saline-là...
C'est quoi la saline?
La saline, oui. C'est une zone humide, un peu, dont les eaux sont salées.
Ok.
Ok? Vous vous mettez au site de Mbombolumene, au centre. Vous voyez à 5-6 kilomètres, donc au fin fond, vous voyez des buffles. Des buffles. Le matin, vous sortez... Je ne sais pas, vous êtes en pagne, en t-shirt ou en pyjama. Mais vous voyez
les buffles.
Des buffles en haut, là, en train de boire de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, je ne sais pas. On me dit que les buffles en question sont le long de la rivière Lufimi. Mais si on était malin, on pouvait construire des miradors pour attirer, s'il vous plaît, les touristes. Rester dans les miradors, apprécier...
Les buffles en train de s'abreuver.
Et ça pouvait faire entrer l'argent, s'il vous plaît, à l'État, le tourisme.
L'écotourisme.
L'écotourisme. Donc on peut tout faire, mais kozanga koyeba.
Ezaliwa. L'ignorance, c'est... Comment protéger les zones humides? On en parle avec le professeur Mutambu Shango, spécialiste en environnement. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la protection, valorisation et protection des zones humides avec le professeur Mutambu Shango, spécialiste en environnement. Vous avez des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Composez déjà le 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Professeur Mutambu, alors parlez-nous des zones humides que vous avez déjà eu à valoriser ou à révaloriser et à protéger aussi.
Sur place au Congo... En tout cas, je n'ai pas fait grand-chose.
Pourquoi?
Mais il faut que les gens puissent... je ne peux pas seul travailler. Je ne suis pas, comme dirait le feu président Mobutu, je ne suis pas un magicien. Je n'ai que 2 yeux et 2 mains. Mais déjà, si vous arrivez à ce que vous appelez une Jili Brasserie, c'est une grande zone humide, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là où déjà, dans ce que président Mobutu avait créé à l'époque, la ceinture verte,
voilà, une chasse à tout autour de la ville.
D'aménagement des zones humides. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit les maisons pousser dans cette
zone. Le but de la ceinture verte, c'était de créer, de ravitailler la ville de Kinshasa en culture maraîchère.
À culture maraîchère, oui. Et en poisson. Il y avait 360 étangs juste dans la région. Il y avait un centre d'alvinage qui était abandonné. Et parce que vous me demandez mes réalisations, j'ai réhabilité en tant qu'individu ce centre d'alvinage. Donc, s'il y en a qui veulent avoir des alevins, et là j'ai fait le poisson, le tilapia maréchal, le tilapia du fleuve. Mmh. Voilà.
J'ai fait donc, ça. Dans une zone humide, c'est facile de faire des étangs.
Mais c'est ça, justement.
Parce qu'on trouve de l'eau, il suffit de creuser un peu. Et, puis,
Et à côté, je suis en train de faire un peu de culture maraîchère pour moi, parce que je ne peux pas tout faire. Mmh. Pour éviter à ce que je sois partout et être nulle part. donc voilà. Ouais, donc, une de mes participations.
Oui.
Et puis, je valorise ma vallée.
Laquelle?
À Maluku, à Inken. Je valorise. Mais ça, c'est pour moi. Et je sais qu'à un moment donné, il y a le VVF qui m'avait dit de réfléchir sur la valorisation, non, la reconnaissance du parc de Salonga et puis les paysages Tumba-Télé, de reconnaître, de participer à la préparation des dossiers de reconnaissance de ces deux sites. À la convention Ramsar. Ben, j'avais préparé les éléments, mais la suite, je ne sais pas ce que c'est devenu les dossiers. Est-ce que les autres ont fait? Est-ce que c'est dans les tiroirs? Je ne sais pas.
Voilà, vous ne savez pas ce qui s'est passé.
Mais au Gabon, entre parenthèses, au Gabon, j'ai créé une réserve aujourd'hui qui fait attirer des touristes. À Gogo.
Qu'est-ce que vous avez fait au Gabon, professeur?
J'ai créé c'est une réserve de Moba.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Une saline, un coin où vous trouvez. On a pu identifier, c'est-à-dire donner aux éléphants leur identité, aux bifs leur identité. Aujourd'hui, par exemple, vous arrivez le matin, vous pouvez vous attendre à l'arrivée de tel éléphant, de tel bif. Donc, on a fait des miradors. Mais pour arriver là-bas, il faut faire 2 jours de pirogue. Et pour les scientifiques et pour les touristes, c'est extraordinaire. Mmh. Parce que le long des voyages, on essaie de voir le singe, les oiseaux, les antilopes qui se promènent en pleine forêt. Et puis, découvrir les merveilles des forêts gabonaises. Et quand vous arrivez, le soir, le matin, à midi, vous voyez les éléphants venir, les antilopes qui sont autour des éléphants, les éléphants qui viennent se battre dans l'eau, jouer et tout comme ça. Mais ça, c'est créé, signé Mutambo Shango.
Au Gabon. Et le projet fonctionne bien jusqu'à aujourd'hui.
Très bien. J'ai, moi, amené des étudiants congolais pour aller faire les mémoires là-bas. Ben, qu'est-ce que ces étudiants sont devenus? Ben, ils ont au parc du côté de Kisangani. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, personne n'a fait ce qu'il a vu au Gabon. D'ailleurs, il y a un qui faisait le monitoring au parc de Maïko. Mm-hmm. Nous arrivons le soir, on voit les éléphants venir vers nous et il est tombé entre mes mains. Professeur, j'ai dit, mais vous faites le monitoring chez nous, mais ici vous êtes devant les éléphants et vous fouillez. Donc vous voyez, oui. Mais le coin reçoit l'argent au moins chaque semaine ou toutes les 2 semaines, ils ont au moins 10, 15 000 euros, s'il vous plaît. Accueil des touristes pour l'écotourisme.
Bien, 2 auditeurs en ligne, Mathieu nous appelle de Mbandaka, Jean-Pierre est à Kinshasa. On commence avec Mathieu, bonjour. Mathieu, vous êtes en Mbandaka, bonjour. Mathieu n'est plus en ligne. Jean-Pierre de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, je suis très content de participer à votre émission Radio Okapi.
On vous écoute Jean-Pierre.
Oui, je voudrais savoir de la façon dont le professeur est en train d'expliquer des sons humides. Mais qu'est-ce que maintenant on pouvait faire pour qu'on puisse bien récupérer tous ces sons humides-là?
Mais professeur, c'est simple. Valoriser, voyez le scientifique. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des plans d'aménagement. Nous avons même un ministère, je ne vais pas plus loin, nous avons même un ministère. Prenez la cité du fleuve. Si c'était dans un pays comme la France, les gens allaient marcher, faire de ceci. Est-ce que vous, Congolais que vous êtes, vous avez déjà vu le plan d'aménagement de cité du fleuve? Moi, non. Mais cette cité du fleuve, c'est une des zones où les poissons viennent pondre, où les alevés s'éclorent, se développent, où c'est un abri pour les poissons, c'est un abri pour les oiseaux, pour les grands mammifères. Qu'est-ce que nous, Congolais, on a décidé de faire cité du fleuve, ce qui est bon, mais quelle est l'activité alternative qu'on a prévue pour sauver les poissons qui venaient se reproduire là-bas, pour assurer la reproduction des alevins et leur croissance? Moi, spécialiste des poissons, je ne connais pas. Mais demain, nous n'aurons plus de poissons à Kinshasa. Heureusement qu'on nous importe des biodies, des faibles valeurs biologiques, mais que nous mangeons, tout en disant que nous avons cette couche de... Nous disons à Bisouan qu'on a cette couche de poissons sur le lac Tanganyika et Kosor. Kozanga Koyeba.
Oui, ça les voit.
Voilà. Hein, mon frère, on peut valoriser. Mais il faut trouver des scientifiques. Je vous donne un exemple, là.
On va accueillir Mathieu de Mbandaka. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, bon, juste, je suis bien le professeur Motam. Oui, c'est mon professeur Ezekiel de Kinshasa. Mmh. Je suis très intéressé de la mission et je salue tout les journalistes de Radio Capi. Voilà, ma préoccupation est la suivante. Le professeur parle de la valorisation des zones humides que je connais très bien et son importance dans la protection de l'environnement et dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, dans la valorisation, c'est bon de valoriser. Et tel que le professeur vient de présenter l'émission, il a visé beaucoup plus la production économique, c'est-à-dire valoriser les zones humides à travers les cultures maraîchères, à travers les projets piscicoles et tant d'autres. Alors, ma question est la suivante. Et en faisant tout cela, quelles sont les conséquences qui peuvent engendrer dans la protection de l'environnement? Comme ici à l'Équateur, précisément, dans la ville de Mbandaka, toutes les zones humides sont pratiquement totalement détruites, remplacées ceci avec des riz et aujourd'hui avec des constructions. Il y a la déforestation, permettez-moi, totale au sein de la ville et comme conséquence que nous observons aujourd'hui, vraiment il y a un changement climatique. À l'Équateur, il y avait un temps où il pleuvait, mais pour le moment, ça ne va pas. Et quelles sont les conséquences, soit les précautions que le professeur peut nous enseigner, soit enseigner à ceux-là qui sont en train de détruire les zones humides, qui absorbent totalement les CO2 et dégagent en grande quantité l'oxygène pour la protection de l'environnement et le réchauffement climatique.
Merci Mathieu. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour M. Jourdi.
On vous écoute.
Oui, bon, en tout cas, M. Jourdi, je suis très flatté et très intéressé par l'intervention du professeur. Hein.
Mm-hmm.
Franchement. Mais j'ai quelques préoccupations pour ne pas dire des questions à poser au professeur.
Oui.
Le professeur a parlé du projet qu'il a initié, qu'il a au Gabon, là, et qui fonctionne très bien.
Mm-hmm.
Je voudrais poser la question au professeur, mais qu'est-ce qui lui manque, lui, d'initier le même projet, parce qu'il a vraiment, c'est un projet flatteur, là, j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce qui lui manque pour faire la même chose ici, dans son pays, la RDC. Donc, qui répondent un peu à la question. Parce que c'est quand même étonnant qu'il aille faire ça au Gabon, alors que nous aussi, notre pays s'apprête bien à ce genre de projet. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il a parlé de la cité du fleuve. Il a, en quelque sorte, voulu sensibiliser les Congolais. Mais lui, en tant que spécialiste, quelqu'un qui maîtrise l'environnement, professeur, qu'est-ce que vous avez fait pour décourager un tel projet, sachant que ça détruit l'environnement? Est-ce que vous avez pris langue avec c'est pas moi, les tenants du pouvoir, ou est-ce que vous avez initié, c'est pas moi, une organisation qui puisse lutter contre ce genre de destruction? Parce qu'après tout, vous êtes Congolais comme tout le monde, surtout que vous êtes
un
professeur. Voilà mes deux questions que je voulais poser au professeur. Merci, Jean-Guy.
Merci, ingénieur Mangoyo. Professeur Mutambwe.
Je vais commencer par vous, mon cher ami, monsieur l'ingénieur. Non, la deuxième question que vous posez, quand on créa cette cité, moi, j'ai parlé à la radio à la télévision B1, j'ai parlé à haute voix. Et il y a une association qu'on appelle ANJ, Association Amis de la Nature et du Jardin, qui ont marché, qui ont parlé, je faisais partie.
Pour dénoncer la destruction de cette zone humide.
En tant que spécialiste. Moi, je parle et tout. Moi, c'est à un moment donné, là où je travaillais, on m'appelait Ndjete Beta Kake. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas peur. Je suis tellement vieux que, bon, si on me tue, on me ferait héros. Me ferait héros de quelqu'un, professeur, c'est dommage, parce que les héros sont réservés au président, au premier ministre, un professeur héros. Donc, je fais parler. Et ensuite, j'ai étudié avec l'argent du gouvernement congolais. Si je ne dis pas la vérité au Congolais...
Vous avez étudié avec la bourse du gouvernement, à l'époque. Vous étiez où, en Belgique, en France?
J'étais en France. J'ai fait toutes mes études, j'ai présenté deux thèses de doctorat. Bon, je n'avais pas l'argent comme tel, mais c'est le gouvernement congolais qui m'a fait sortir. Donc, si je ne dis pas la vérité au gouvernement congolais, je serai hypocrite.
Donc, vous avez eu à dénoncer cette affaire-là.
Et puis, en plus, tout ce qu'on fait, je ne sais pas quoi, mais il y a mon impôt aussi. Donc, si je ne dis pas la vérité, j'ai tort à trois raisons que je viens de citer. Donc, j'en ai parlé. Bon.
Il dit, vous avez initié un projet au Gabon qui marche bien. Pourquoi, attends, vous êtes fils du pays, pourquoi ne pas initier le même projet ici en RDC?
Mais si j'ai amené des étudiants congolais les retrouver de bourse, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des Congolais qui font des recherches ailleurs, il prend les étudiants congolais et dit, je vous trouve des bourses, venez voir ce que je fais?
Voilà. Il dit, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de reproduire les mêmes projets ici?
Est-ce que les gens sont venus, le mémoire des étudiants sont à l'ICCN? C'est l'ICCN qui est chargé de la conservation. J'ai amené, s'il vous plaît, je parle de Mombolomene, j'ai déposé mes équipements là-bas. Mais il y a un service de... les publications que je fais, je donne. Hein? Donc, je n'ai pas la constipation d'informations. Je donne tout. OK? Ça, c'est un. La deuxième question, vous me dites de... Qu'est-ce qu'il dit?
Oui, il a dit pourquoi il initiait les mêmes projets ici. Et qu'est-ce que vous avez fait vous-même en tant que Congolais pour lutter?
Oui, c'est ça. J'ai formé. Je suis professeur et je forme.
Oui.
Ben pour mon ami de Mbandaka, merci, je vois que j'ai semé et que je n'ai surtout pas semé dans le désert.
Oui.
Parce que toutes les conséquences négatives, vous les avez déjà citées.
De la destruction des zones humides.
Vous savez, les zones humides participent beaucoup pour l'évaporation. Et quand il y a l'évaporation, vous avez les pluies. Mais la pluie, c'est quoi? C'est l'eau qui s'évapore, se condense. Et se transforme encore en pluie et vous avez un cycle. Or, aujourd'hui, l'évaporation a diminué avec tout ce que nous construisons, tout ce que nous faisons. Et je disais, il y a 20 ans, j'avais fait une conférence avec mon collègue professeur Tombi et Lelo. Je leur ai fait comprendre, en tant que spécialiste, je leur ai dit, à Kinshasa, aujourd'hui, nous, avec la destruction des zones humides, nous allons connaître des conséquences néfastes.
Lesquelles? Changement climatique.
Les érosions. Prenez toutes les érosions, c'est quoi? Ce sont des bêtises. Et je me demande, et nous avons même un ministère des Affaires foncières. Mais on vient lotir les terrains après avoir été occupé. Des zones que le Belge ont dit on ne peut pas y toucher compte tenu de. C'est occupé.
Anarchiquement.
Mais.
Les constructions anarchiques se multiplient.
Et vous avez des érosions à tout moment. C'est quoi? Occupation anarchique des zones humides et des zones sensibles. Donc, vous dites, mon cher ami, vous-même, vous avez fait la litanie des conséquences. Changement climatique, des érosions, des maladies. Des maladies, s'il vous plaît.
À cause de l'humidité.
Mais attendez. Allez ici, là, sur Louvre, Roi Kadingi.
Dans la commune de Kinshasa.
Ici, là, oui. Pas plus loin. Ou à des bonhommes. Zones humides. À un mètre de profondeur, vous avez
de l'eau.
L'eau de la nappe phréatique. Nous faisons des fosses septiques. Et c'est là où on vient se vider. Vous comprenez? Cette eau-là, c'est tout ce que tous nos déchets-là, c'est infecté. Il y a des gens qui ont des ascarices, des gens qui ont des bactéries pathogènes et tout ça. Ça va dans le nappe phréatique. Et cette eau-là, nous reprenons encore, nous buvons. Nous lavons les habits, nous lavons les assiettes. Sommes-nous sérieux?
Voilà. Alors, comment protéger aujourd'hui? Aujourd'hui, la plupart des zones humides sont occupées.
Oui.
Et ce sont les maisons qui ont poussé. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les protéger? Protéger n'est plus que ce qui reste, les zones qui restent.
Ben, la première chose, c'est de travailler avec des scientifiques. C'est simple. On n'est pas nombreux, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Former les gens capables d'étudier les différents impacts. C'est tout.
Mais vous travaillez en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique, n'est-ce pas, professeur?
Je suis professeur, et logiquement, même au niveau de l'université, l'université doit travailler en collaboration avec le ministère de Recherche scientifique. Vous allez dans les pays comme la France ou la Belgique. La France que je connais, le Centre national de recherche scientifique a des bureaux au sein des universités. Les professeurs des centres de recherche scientifique et des universités travaillent ensemble. C'est ensemble qu'il faut voler les avions. Mais je vous ai dit, ici chez nous, je ne connais pas le budget des ministères de recherche. Mais en tout cas, depuis que je suis professeur, je n'ai jamais eu 100 francs congolais, pas même un franc congolais pour faire de recherche. Pourtant, je suis à l'université et puis dans mon pays, il y a le ministère de la recherche.